Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Les trois religions du livre, judaïsme, christianisme et islam, ont dans le désert. C'est là qu'apparaît Dieu après la tentative ratée du jardin d'Éden. C'est là que s'enfuient ceux qui sont menacés, comme Agar, la servante d'Abraham, poursuivie par la jalousie de Sarah, l'épouse légitime. C'est donc un lieu vide, sans vie, croit-on. Et pourtant, nombre de mystiques en ont chanté la spiritualité. Alors, pour en parler, j'ai en face de moi Anne-Sophie Dantan, qui vient de mener une petite expédition dans le désert tunisien, dans une réflexion Bible et désert. Alors, bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Pourquoi cette idée de Bible et désert? Pourquoi cette idée d'aller dans le désert tunisien pour parler de la Bible?
Alors, depuis une vingtaine d'années maintenant, moi, je vais régulièrement dans le désert sud-tunisien, marcher en groupe presque une semaine par an ou une semaine tous les deux ans. Ce sont des temps de retraite, de silence et puis de confrontation à cet espace très particulier du désert. Et depuis quelque temps, je me suis poser la question d'emmener d'autres personnes avec moi de la paroisse ou des paroisses dans lesquelles je suis passée. Et voilà que cette année, ça a pu se concrétiser au mois d'octobre.
Et alors, à début, c'était la cohésion d'un groupe paroissial. Au-delà de sentir la spiritualité du désert, il y avait aussi un souci pastoral.
Alors, l'idée, c'était… L'idée de départ, c'était comme ça me fait du bien à moi, nécessairement ça peut faire du bien aussi à d'autres. Et donc de partir peut-être de ça déjà. Et puis en fait ce groupe il s'est constitué avec des gens très divers qui tous me connaissaient mais qui ne se connaissaient pas entre eux. Effectivement, il y avait certaines personnes de la paroisse d'Uzès, où je suis pasteur actuellement, et puis de d'autres paroisses de la région.
D'accord. Et alors, donc, ce groupe a cohabité normalement. Il n'y a pas eu de clan entre les gens d'Uzès, les gens d'une autre paroisse.
Non, en fait, c'est un groupe qui s'est constitué très, très vite dans cet univers du désert, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. On est vraiment les uns et les autres, confrontés les uns et aux autres. On était, le fil qui nous reliait était effectivement cette appartenance ecclésiale, alors plus ou moins proche, hein, puisque les gens ne sont pas tous engagés de la même façon, mais en tout cas, les gens étaient tous reliés par cette appartenance de près ou de loin au protestantisme et au texte biblique. Et l'idée, c'était dans ce lieu improbable, ou en tout cas inconnu de la majorité des gens, de réfléchir sur cette thématique du désert dans laquelle on était, et de le faire à partir de textes bibliques qui nous ont accompagnés pendant nos temps de marche.
Alors, on va voir justement les thèmes bibliques, mais avant, l'organisation matérielle, c'est quand même un gros boulot. Vous n'êtes pas spécialement organisateur de voyage. C'est pas simple d'emmener une dizaine de personnes. Je suppose que vous étiez une dizaine. Donc, les étapes, la fatigue, comment tout ça s'est articulé? Vous étiez avec des jeunes, avec des…
Alors, on était avec des paroissiens pas tout jeunes. Et la majorité n'était même pas du tout tout jeune. L'idée, c'était, on part de France, on arrive sur Djerba, on vient nous chercher en 4x4. On a un ami chamelier qui est du village de Sabria, qui est un nomade du désert, qui vient nous chercher et qui nous amène dans son désert. Et puis, on part avec lui pendant une semaine. Donc, en fait, tout l'aspect matériel sur place est géré par cet ami chamelier et son équipe à lui. Donc cette fois-ci, on était 12 à partir à marcher. Et on avait avec nous 5 chameliers plus le chamelier en chef et une caravane de 11 chameaux, dromadaires plutôt, qui nous accompagnaient, qui portaient les bagages, mais aussi toutes les affaires nécessaires pour la semaine, les vivres, l'eau, les tentes, nos sacs, des couvertures, des matelas, l'alimentation des dromadaires. Et en fait, nous, on arrive dans le désert et on ne s'occupe pas de grand-chose, sinon de nous-mêmes, et donc moi en particulier du groupe aussi.
Et les étapes, donc c'était combien de temps de marche à peu près ?
Alors le rythme, si on se lève le matin assez tôt avec le soleil, on petit déjeune et puis on part marcher environ 3-4 heures jusqu'à 1 heure de l'après-midi. On s'arrête pour déjeuner et puis on se pose. On fait une petite sieste où on discute, où on lit, où on va se promener un peu. Et puis, en fin d'après-midi, on monte le camp pour le soir. Donc, on marche en gros 3h30, 4h dans la journée.
Ce n'est pas trop fatigant donc pour des gens relativement âgés.
Alors, le challenge, c'est de marcher quand même un peu. Mais on a aussi la possibilité d'être porté par les dromadaires si on est trop fatigué. Donc, il y a toujours 3, 2, 3, 4 dromadaires qui peuvent porter des gens à moitié de la marche ou toute la marche si quelqu'un est vraiment fatigué. Et généralement, on se relaie. Les uns montent, les autres marchent. Voilà. Donc, il y a toujours la possibilité de ne pas marcher. Et puis, il y a eu des journées où on a marché plus que d'autres. Ça dépend aussi un peu de la météo. Voilà.
Et alors, bon, là, on a vu l'organisation technique parce que c'est quand même important de voir l'organisation technique avant de voir les thèmes plus spirituels. Parce que si les gens sont crevés, sont de mauvaise humeur, je suppose que ça n'aurait pas été facile de mener une réflexion biblique. Ce n'est pas ce qui s'est passé, donc.
Non, en fait, paradoxalement, on dort pas mal parce qu'on se couche assez tôt. À 6 heures du soir, la nuit est tombée, donc à 8h30, 9h le soir, on dort, ce qui n'est pas le cas dans nos vies habituelles. Et puis, on se lève voilà, vers 6h30, 7h, donc ça fait quand même des grandes nuits. Le rythme est un rythme très lent, la marche est lente, parce qu'on marche dans du sable, donc on ne marche pas vite. Puis on n'est pas du tout dans un esprit de, voilà, de sportif ou de compétition. On marche au rythme de chacun. Si certains marchent plus lentement, bah le groupe s'adapte. Donc on marche, en fait le rythme général est lent. Quand on s'arrête, on se repose. Il faut le temps de préparer le repas, de faire cuire le pain. Donc en fait, c'est un rythme très lent qui n'est pas du tout celui dans le auquel on est habitué, et je crois que très vite on prend ce rythme lent et du coup on n'est finalement pas fatigué. Et même à la limite, on sort de cette semaine plutôt reposé alors qu'on a marché.
Et alors cette marche, c'est une façon de redevenir nomade comme le peuple du désert, comme les Hébreux. C'est retrouver nos racines et puis en même temps Théodore Monod, c'est un peu tout ça. Oui.
Peut-être c'est un peu tout ça. En tout cas, c'est très différent de marcher dans le sable. Là où on va, c'est vraiment un désert très sableux. C'est pas un désert. Alors, on marche aussi sur du reg, hein, des espaces plutôt caillouteux, salés, mais la grande partie du temps, c'est quand même du sable. Donc, c'est vraiment le désert, le Sahara, tel qu'on l'imagine, en fait, hein, dans nos rêves les plus fous. En même temps, ce sont des paysages extrêmement divers les uns des autres. Alors, qu'est-ce que c'est cette marche ? C'est des temps où, d'abord, on regarde. Et beaucoup de gens nous ont dit, finalement, les trois premiers jours, on n'était pas tellement dans la méditation parce qu'on était dans la découverte de ce paysage inconnu et étonnant. Ce paysage, il est très particulier et nous renvoie très vite à nous-mêmes. Parce que, en fait, il est en même temps différent chaque jour, mais on l'est en même temps dans une immensité qui nous renvoie à notre petitesse très rapidement. Et je crois que cette marche, elle est avant tout aussi pour chacun un retour sur lui-même. Avant d'être un retour avec les textes bibliques, on est avant tout avec soi-même. On essayait de marcher un peu en silence, en tout cas au début de la marche. Et puis, on est aussi très vite, dans la seconde partie de la marche, généralement en discussion avec nos amis du groupe. Et alors, on est assez vite frappé du fait que on marche avec des gens qu'on ne connaît pas et très vite, on est dans des discussions très intimes où on va très loin avec les gens parce que c'est comme si le désert nous invitait à cette intimité-là. On va très vite partager des choses peut-être qu'on ne partagerait pas normalement sur notre... Alors, c'est vrai que ce qui nous relie, c'est d'être... protestant ou d'être engagé d'une façon ou d'une autre dans notre chemin spirituel. Et c'est ça aussi qui se partage assez vite avec les gens. Et c'est assez inhabituel parce qu'on ne partage pas très facilement en temps normal avec des inconnus sur sa foi ou sur son engagement ou sur sa spiritualité.
Alors, on va voir les thèmes que vous avez abordés. On va faire une petite pause musicale très rapide avec les chants des chameliers qui ont été enregistrés. Alors, il faut savoir que c'était la période du Ramadan, que ces chameliers étaient fatigués, même si ils ne le montraient pas. Et donc, voilà, c'est pas des professionnels, mais c'est intéressant. Alors, on va écouter quelques secondes de leur chant. Alors, on se retrouve pour évoquer les thèmes que vous avez choisis. Alors, vous avez choisi 5 thèmes. Alors, le premier, le désert comme lieu de retrait. Donc, c'est se dépouiller de tout, en fait. C'est tout abandonner, comme vous l'avez dit, tout abandonner le superflu, pas d'électricité, rien du tout, pas de frigo, pas de... Comment on arrive finalement à vivre sans électricité, sans frigo ? C'est un peu ahurissant, non ?
Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas habitué. Donc, c'est vrai que c'est retrait, en tout cas, de nos habitudes de vie de tous les jours. On part un petit peu loin et on est confronté à l'inconnu, retrait de nos habitudes, de notre rythme. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de portable, on est un peu coupé du monde. Donc, en ce sens-là, c'est une retraite un peu brutale, si j'allais dire. On n'a pas une chambre dans laquelle on peut aller dormir puisqu'on dort sous tente, mais en fait, on change de lieu tous les jours. Donc, on est dans une itinérance aussi. Donc c'est un retrait effectivement qui est assez complet, je dirais. Et je crois qu'il y a aussi très vite du retrait
intérieur.
Vous
l'avez à l'expérience du prophète Jérémie. Donc dans le petit livret que vous avez fait passer aux participants, donc Jérémie à Agar qui fuit la colère de Sarah, dont j'ai parlé au début, et même à la période du désert dans les Cévennes où les protestants se retiraient pour pratiquer leur culte. C'était donc le moyen de peut-être de comment dirais-je moi de changer de peau et de se transformer en prophète hébreu, en servante égyptienne et ou en protestant cévenol. C'était une
En tout cas, ça nous invite à réfléchir sur la question du refuge et comment est-ce qu'on a besoin, en tout cas dans les textes bibliques, ça existe de façon très forte, quand on fuit quelque chose, alors ça peut être au niveau très concrètement, hein, comme les protestants au moment des guerres de Camisard, mais ça peut être aussi plus symboliquement, on a besoin les uns et des autres de lieux, de temps, de refuge où on se réfugie. Et je trouve c'est intéressant, le retrait, le refuge, c'est comment à un moment donné on se coupe de l'habitus de nos vies et on a besoin de lieux un peu coquilles qui viennent nous accueillir hein, ou nous recueillir, et le désert peut être un lieu comme ça. D'ailleurs c'est pour ça hein, que ça s'est appelé lieu de désert pour les protestants. Comme un lieu aussi, pour accueillir ces temps de retraite.
Et puis, il y a le désert. Donc, la deuxième partie, c'était le désert comme itinérance. Alors, c'est redevenir nomade, en fait, être toujours en mouvement. Dans la Bible, il y a cette idée, là, dans la théologie, vous trouvez cette idée de mouvement, de mouvement qui continue.
C'est vrai que en tout cas, dans tout l'Exode, on suit le chemin du peuple hébreu hein, dans son itinérance. Après, les prophètes ne cessent de partir, de revenir, d'aller et de refuser d'aller. Voilà, donc ils sont aussi sur des chemins d'itinérance. Et puis alors Jésus et ses disciples parcourent le pays en permanence, ils sont sur les chemins. Je crois que l'itinérance, c'est très important. On s'était posé la question à un moment donné de savoir si on faisait un camp fixe ou semi-fixe pendant cette semaine, ou si on maintenait ce que moi j'ai toujours fait de façon plus personnelle, c'est-à-dire de changer de lieu tous les jours. À un moment donné, je m'étais dit que ce serait peut-être fatigant pour le groupe aussi d'avoir à chaque jour refaire son sac, replanter sa tente pour le soir, se réinstaller pour la nuit. Et puis, en fait, je trouve que finalement, le rythme de cette itinérance quotidienne est important parce que ça nous oblige aussi à nous déplacer avec… alors, on n'a pas beaucoup d'affaires hein, quand on part comme ça une semaine… marcher dans le désert, mais quand même. Et ça nous oblige aussi à peut-être à penser au minimum dont on a besoin. Et puis, ça nous fait travailler sur quel déplacement on est capable de vivre hein, et comment on se réinstalle au quotidien, chaque jour, de façon sans doute différente. Oui.
C'est vraiment une façon de vivre, en fait, tout ce que vous décrivez. C'est une façon de se dépouiller complètement. Ça me vient là, en vous écoutant, c'est vraiment… le désert, c'est un peu la… comment dirais-je, moi, l'opportunité de tout enlever du superflu.
Je crois que, en tout cas, dans cette itinérance de ces quelques jours, parce qu'on part pas très longtemps… Mais on peut toucher assez facilement à des choses très essentielles, effectivement. Et l'itinérance, dans ce qu'elle a aussi de mouvement, nous oblige à ça. Je crois que chaque jour, finalement, on va un peu plus profond en nous-mêmes vers des petites choses essentielles.
Et puis après, donc, c'est le désert comme lieu d'épreuve. Et là, vous citez les frères Karamazov de Dostoïevski, qui écrit que le désert est un lieu où l'homme est mis à l'épreuve. Et puis, il y a l'Exode, il y a d'autres textes bibliques, là, bon, et Matthieu, donc, qui parle de la tentation de Jésus. Donc là, on est vraiment dans l'épreuve. Pourquoi citer Dostoïevski? Pourquoi cette idée que qu'on doit affronter ces tentations et que le désert est le lieu pour affronter ces tentations? C'est en rapport avec Jésus? C'est en rapport
Il me semble que d'abord il faut accepter d'aller dans le désert, c'est-à-dire il faut accepter pendant un certain temps d'être coupé de ce qui nous relie. Donc, il y a quelque chose là qui n'est pas tout simple. Hein. Il y a des gens qui ont eu du mal avec ça, de ne pas avoir de téléphone en permanence. On est très, très, très habitué quand même. Hein. D'emblée, il y a quelque chose qui est quand même une petite épreuve. Et puis après, quand on arrive dans ce lieu, on est soumis aux éléments. Il y a du vent, il fait chaud, très chaud parfois, il fait froid, on est dans le sable, ça vient nous perturber, on n'est pas habitué, tout n'est pas super agréable à vivre. Et donc, on est confronté quand même à des choses qui sont pas habituelles, qui nous déplacent un peu. Et c'est vrai que dans les textes bibliques, le désert, c'est le lieu de confrontation aussi. Fondamentalement, on ne peut pas vivre dans le désert. C'est un lieu de mort, on le sait. On a besoin, pour vivre dans le désert, des oasis. On a besoin d'aller pouvoir puiser de l'eau à un puits, sinon on ne tient pas dans le désert. Quelque part, on est confronté à des choses auxquelles on n'est pas habitué très, très rapidement. En l'espace de 2 jours, on peut s'imaginer, on peut se perdre assez facilement. Il suffit qu'on passe 3 dunes en allant ramasser du bois, et puis on ne se retrouve plus parce qu'on ne connaît pas. Donc, il y a quelque chose qui effectivement… Alors là, dans notre petite semaine, c'est pas un lieu d'épreuve parce qu'on est assez tranquille. Mais c'est intéressant de voir comment ça peut effectivement aussi être ce lieu d'épreuve et comment dans les textes bibliques, c'est pour Jésus quand même un lieu très particulier et pour un certain nombre de prophètes aussi.
Donc, je dirais aux gens qui nous écoutent que si vous cherchez le Club Med, c'est pas le bon endroit. C'est pas en dépit du sable, c'est pas vraiment ça. Mais enfin, heureusement, donc il y a le thème aussi du lieu de rencontre. Le désert, c'est le lieu de rencontre. Alors, c'est paradoxal parce que y a personne dans le désert, si.
Oui, alors moi, je pense que ce qu'on vit là, hein, dans ces 5 jours de marche, c'est pas vraiment une épreuve. Parce que on est en groupe, on est accompagné, on est chouchouté par les chameliers, on est dans des conditions tout à fait simples, même si il peut y avoir un petit vent de sable ou à un moment donné une marche un peu fatigante, mais on n'est pas confronté à l'épreuve. Mais je crois que on peut s'imaginer ce qu'elle peut être. Voilà. Le quatrième thème, c'était effectivement le thème de la rencontre. Dans la Bible, le désert est un des lieux de la rencontre avec Dieu. Effectivement, et je pense que peut-être aussi parce que on est très très vite au contact, si on le souhaite, au contact de soi-même de façon très particulière. Il n'y a pas de bruit, on peut être dans un silence extrême, il n'y a rien qui vient perturber notre champ de vision, Il y a voilà, donc nos sens peuvent être en même temps mis en éveil et en même temps mis au repos. Et je pense que voilà, les textes bibliques le signifient bien. On est dans le désert, dans un état un peu particulier, et c'est vrai que les textes bibliques nous disent clairement que plusieurs, en tout cas, c'est là que Dieu parle à l'homme. Alors, on a effectivement le buisson ardent et Moïse, on a plusieurs textes où Dieu se révèle là.
Mais là, il y a une rencontre avec la nature, je suppose, parce que on voit les choses différemment. Ce n'est plus la forêt, mais c'est le buisson, c'est la petite fleur, c'est quand il y en a. Et puis, c'est aussi la rencontre avec les chameliers. Donc, c'était pendant le Ramadan. Est-ce que vous avez eu sentiment d'une spiritualité partagée avec ces gens qui vous accompagnaient et qui n'étaient pas de la même religion?
Moi, il me semble que ils vivaient le Ramadan de façon extrêmement discrète, mais ils étaient en prière du matin au soir, plusieurs fois par jour. Ils jeûnaient, donc le soir, ils rompaient le jeûne. Je pense qu'on était quand même dans une atmosphère particulière avec eux dans cette marche-là, en tout cas à ce moment-là. Je crois aussi que on est confronté à des paysages somptueux. On n'a pas l'habitude de ces paysages-là, donc ils viennent nous éblouir. Et il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre, oui, d'une confrontation à une nature. J'imagine, ou je n'ai pas fait beaucoup de montagnes, mais j'imagine que c'est un peu comme cette grandeur de la montagne quand on s'y confronte, ou cette magnificence de la mer infinie quand on fait du bateau. Là, on est effectivement dans des paysages magiques, et il y a une vraie beauté du lieu, et je crois que la beauté joue pour moi, en tout cas dans la traversée spirituelle. Elle est importante. Alors, il y a la beauté des paysages, il y a la beauté du ciel étoilé, il y a les rencontres qu'on a les uns avec les autres et avec les chameliers. L'autre, pour moi, la rencontre avec l'autre, c'est aussi un lieu où on peut rencontrer Dieu. Voilà, je crois qu'on a eu des temps d'échange qui étaient aussi importants. Des temps de chant, des temps de rire, ce sont aussi des temps où on peut, pendant lesquels on peut rencontrer Dieu. Pour moi, Dieu se rencontre dans beaucoup de lieux différents.
Alors, on refait une toute petite pause musicale et puis on poursuit.
Mali, ha, 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 ha
Alors, le dernier thème de votre réflexion, c'était le désert comme lieu de vie et de mort. Et vous citez la très belle phrase de Saint-Exupéry, le désert, c'est ce qui est beau, c'est que ça cache un puits quelque part. Et donc, le désert, vous dites, c'est pas un lieu où il y a rien. C'est le lieu où l'homme est seul avec la parole, en fait. Et cette parole, elle se passe de mots. Vous parliez du silence tout à l'heure. Alors, vie et mort, comment ça s'articule dans le désert? Bon, je suppose qu'en 5 jours, vous n'avez pas vécu la mort, évidemment, mais est-ce qu'on peut l'imaginer présente? Est-ce qu'on peut l'imaginer familière? Comment articuler la vie et la mort? J'avoue que ça m'a un peu intrigué, ce thème de désert comme lieu de vie et de mort.
Ben, le désert, sans les oasis et sans les puits, il n'est pas vivable. Donc, en soi, c'est effectivement un lieu où si on y reste, en soi, il n'est pas vivable, donc c'est un lieu de mort. Pour qu'il devienne un lieu de vie, il faut pouvoir aller puiser de l'eau au puits, et il faut pouvoir trouver des oasis. Et l'oasis, symboliquement, c'est comme un petit lieu où eh ben, on vient se ressourcer, on vient boire, on vient manger, on vient se reposer. C'est un petit lieu de vie. Et je crois que dans ce désert, il y a des petits lieux de vie où on va puiser, et puis il y a des lieux plus compliqués, et comme dans nos vies. On traverse dans nos vies des temps de mort et puis des temps de ressourcement. Et je crois que dans la parole biblique, il y a vraiment ça aussi. Il y a des traversées du désert, comme on dit. Et puis, il y a des moments beaucoup plus réjouis de fêtes, et les deux se côtoient. Et je crois que dans le désert, il y a quelque chose comme ça aussi. On a au milieu de ces 5 jours, été jusqu'à un puits qui était là. On s'est lavé, et il y a effectivement quelque chose d'assez magique d'aller puiser l'eau au milieu de nulle part, et de se verser l'eau pour se laver. D'abord, ça fait du bien, c'est vivifiant, mais il y a aussi, au-delà de ça, quelque chose de très régénérant, je crois, qui donne de la force. Et là, on peut penser au texte de la Samaritaine avec l'eau vive. Qu'est-ce que c'est que cette eau vive? Finalement, c'est elle qui donne à boire à Jésus sur le bord du puits. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une force qu'on peut puiser là.
Et vous citez une découverte, vous dites c'est une découverte pour le civilisé que d'apprendre qu'il faut vraiment bien peu de choses pour vivre, un peu de riz, une poignée de dattes, quelques gorgées d'eau, etc. Et alors, dans votre groupe, vous aviez Daniel Larib, dont nous diffuserons le témoignage le 28 avril à 10h10, qui a été pris en otage par Al-Qaïda et qui a vécu pendant 3 ans dans le désert, avec sa femme au début, qui sera aussi interviewé dans Un protestant peut en cacher un autre. Et ils nous racontent comment ils ont pu vivre sans rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Ils sont partis sans lunettes, sans médicaments. Alors, c'est un exemple extrême. C'est un exemple qui n'est pas choisi. Évidemment, ils n'ont pas choisi de vivre comme ça. Mais ils racontent comment, finalement, on peut vivre sans rien pendant 3 ans. Et ça, c'est quelque chose que je voulais signaler à nos auditeurs. Et si, je voudrais maintenant… Pardon ?
Non, c'est l'expérience du désert. Hein. Ahmed, le chamelier, dit… et lui, il est d'une famille de nomades, donc qui faisait du commerce entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Et il dit, on peut traverser le désert, c'est-à-dire on peut accompagner une caravane. Il suffit d'avoir quelques dattes et de l'huile. De l'eau, bien sûr, mais quelques dattes et de l'huile, on boit le lait des chamelles et on mange des dattes et de l'huile et on peut vivre des jours et des jours et des jours. Donc, effectivement, on peut vivre avec pas grand-chose.
Et alors, on va terminer sur vous-même avant de donner les coordonnées de Hamed, donc votre guide. Hein, si ça intéresse des gens de participer, si ça intéresse des auditeurs, il faut qu'ils sachent que, eh bien, on est très bien dans le désert et on est très bien soigné par Hamed qui prend soin des groupes. Alors vous, Anne-Sophie, vous êtes pasteur depuis un certain temps. Vous avez fait de l'aumônerie, vous êtes en paroisse. Qu'est-ce que ça change pour vous, le désert? Est-ce que vous rencontrez les gens d'une autre façon? Les gens qui sont avec vous, parce que vous avez quand même l'habitude du contact, vous avez l'habitude de côtoyer beaucoup de gens.
En fait, alors je vous disais en commençant cette interview que si ça me faisait du bien à moi, je pensais que ça pouvait faire du bien à d'autres. Et je pense effectivement que c'est des lieux, en fait, il y a un double temps. Il y a le temps de soi avec soi. Et moi, j'ai besoin de ce temps-là pour moi, de temps en temps, c'est-à-dire des temps de retraite, effectivement, et de retrait, où on va et déposer ses cailloux dans le sable. C'est-à-dire, je vais régulièrement déposer un peu des choses qui sont lourdes et les remettre au sable, si je puis dire. Et puis, en même temps, c'est des temps de rencontre. Et pour la première fois, emmener un groupe, je trouve, était intéressant parce que je trouve effectivement que les rencontres, les dialogues permettent, dans cette semaine, on va très vite à l'essentiel. On rencontre des gens qui acceptent de parler d'eux très rapidement. Et en tout cas, avec ce groupe, ça a très, très bien fonctionné. Alors, on est en sécurité la plus totale. Je pense que ça compte. Les chameliers nous offrent ça. Ils nous offrent, dans ce milieu qui n'est pas facile, qui peut être un peu hostile, une sécurité complète. Et en sécurité, dans un lieu assez magique, ben du coup, on peut se laisser aller à la rencontre. Et ça, c'est important.
Alors, merci pour ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous donner donc les coordonnées de Hamed sur Internet ou alors on les mettra sur le podcast. Ce sera peut-être plus simple parce que à la radio, c'est pas facile. Donc, je signale aux auditeurs de toute façon, ils peuvent toujours écrire à un protestant, peut en cacher un autre, @radiofmplus.org ou tout simplement à contact, @radiofmplus.org. Mais ils l'auront sur le podcast. Merci encore, Anne-Sophie.
Je signale juste qu'on organise donc un prochain voyage à l'automne prochain, la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Et je pense que nous en organiserons un autre, certainement en mars 2026. Donc, bienvenue à vous pour ces voyages Marché Bible. Alors, vous vous adressez à moi directement.
Donc, Anne-Sophie Dantan, pasteur à Uzès.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Thème et anathème. Une émission proposée par Yolande Gounel.